Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Alors pour tout vous dire, cette semaine, j'ai hésité entre deux sujets. Je voulais vous parler du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille ou de la stratégie de la droite vis-à-vis du président. Mais voilà, une information a tout balayé, s'est imposée. En Nanterre, la mort de Naël, 17 ans après un refus d'obtempérer, a suscité beaucoup d'émotions, de réactions et surtout beaucoup de tensions et de violences. Après deux nuits de scènes avec une violence, faut le dire, assez rare, l'exécutif a mis en place un plan de crise. Et dans ce nouveau numéro, nous allons vous raconter comment le gouvernement veut éviter la contagion. Et vous allez entendre un reporter qui était au cœur de la marche blanche. Son témoignage est primordial. Bienvenue dans le service politique. Salut Anne.
Salut Thomas.
Donc toi Anne, tu reviens de Vendée où il devait y avoir un déplacement de la Première Ministre. On va y revenir. Mais si tu le permets, je voudrais donner la parole d'abord à Anthony. Salut Anthony.
Salut Thomas.
Toi tu
salut
es
Anne.
Encore à Nanterre.
Ouais.
Et tu as couvert. Alors j'explique, tu fais partie du service politique. Mais chaque fois qu'il y a des manifestations avec des élus de la NUPES, tu y vas pour donner la parole aux élus. Tu fais en clair l'angle politique et bien des manifestations. Et là, ouais, cet après-midi, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 juin, et tu as couvert cette manifestation. En tout cas, tu as essayé de couvrir la marche blanche. Ouais. Explique-nous pourquoi essayer.
Essayer parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé sur les lieux de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui était normalement le lieu d'origine de départ de la marche blanche, on nous a tout de suite dit, et ça c'était les confrères notamment de TF1 et de France Télé qui nous ont dit ça, attention, BFM TV est recherché dans le quartier, dans la cité d'où vient Naël, donc ce jeune de 17 ans qui a été tué, et grosso modo il y avait le message qui était passé de casser le matériel des journalistes et de cibler BFM TV. Moi j'ai des gens dans la manifestation qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé de quel média on était. On a essayé de dévier la discussion et ils nous ont dit, si vous croisez des journalistes de BFM ou de CNews, dites-leur de pas venir. J'ai même une consoeur de BFM, on lui a dit on va t'égorger si tu reviens ce soir. Donc voilà le contexte très tendu déjà pour le travail des journalistes, alors que nous on essayait aussi de pouvoir couvrir cette marche blanche pour recueillir la parole non seulement des politiques pour ma part, ce que j'ai même pas réussi à faire en fait, parce que
tu n'as même pas accédé aux élus.
Non,
aux
impossible à part les élus écologistes qui avaient prévu le coup en
D'accord.
quelque sorte et qui avaient prévu un point presse en amont à 15 minutes à pied du lieu de départ de la marche
D'accord.
blanche qui était dans la
là,
cité Pablo
t'as
Picasso.
Pu y accéder.
Là,
D'accord.
j'ai pu le faire. Là,
et les élus
le
insoumis, tu les as pas vus par contre.
Ah, je les ai pas vus du tout.
Clémentine Autain, c'est pas
rien. Vu. Thomas Porte, Manuel Bompard, Mathilde Panot, on les a pas vus. Ils sont venus sans écharpe. Ils sont partis juste avant que ça commence à péter. Pareil pour les élus communistes, Fabien Roussel ou Olivier Faure du Parti Socialiste. Donc on les a pas vus en fait. On n'a pas pu faire de son avec eux. Et d'ailleurs, eux-mêmes nous disaient attention, on sent bien aussi que dans la cité, il y a beaucoup de ressentiment envers les journalistes. Donc par souci de sécurité, on a préféré rester à la préfecture des Hauts-de-Seine. Et ça a commencé aussi à dégénérer à ce moment-là, où on a entendu des tirs de lacrymogènes, des tirs de mortiers d'artifice. Il y a eu un énorme mouvement de foule. On a dû courir pendant une centaine de mètres. On a
ouais.
échappé de peu à des jets de pierre. Enfin, c'était assez compliqué à vivre. Voilà.
On est évidemment choqué par tout ce que tu nous racontes là, parce que en plus, je te connais très bien, tu as couvert toutes les manifestations de la réforme des retraites et tu n'avais jamais vécu ça.
Ah non, non.
Tu as toujours accédé aux politiques lors des manifestations contre les retraites.
Oui, et pas
contre la réforme des retraites.
Et pas seulement de la réforme des retraites par ailleurs, mais on avait toujours accès parce que eux-mêmes avaient prévu, tu sais, des sortes de services d'ordre, de cortège, de tête de cortège, etc. Là, évidemment, il n'y avait
ouais.
rien. C'était priorité à la famille et aux proches
ah, oui.
de Naël, ce qui est normal. Mais là, on ne pouvait pas rentrer. C'était une question de sécurité, quoi. Une vraie question de sécurité. Parce qu'il y a eu des menaces, il y a eu des insultes.
D'accord. Et donc là, je raconte pour ceux qui nous écoutent, toute l'après-midi, on a entendu des reporters de BFM TV qui étaient
oui.
dans la marche blanche. On est d'accord, Anthony, aucun n'apparaît devant l'écran et on ne donne aucun nom des journalistes qui travaillent sur place, justement pour ne pas être repérés.
Voilà, c'est ça. Et ça, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'ai couvert
les Gilets jaunes aussi.
Voilà, les manifestations.
Ouais.
Alors, les Gilets jaunes, j'étais encore en école de journalisme, mais les manifestations anti-pass.
Oh là là, ce jeune-là, c'est bon, ça suffit.
Anti-pass, anti-vax. En fait, c'est très simple. Mmh. Les gens qui participent à cette manifestation connaissent nos visages et connaissent nos noms. Ils nous repèrent en moins de 5 mmh. minutes, moins de 10 minutes. Et puis là, en l'espèce, dans cette marche blanche aujourd'hui, il y avait des éclaireurs en moto qui étaient là en tête de cortège et qui filtrait en quelque sorte les journalistes en disant lui c'est bon, je le connais, c'est pas BFM, il peut passer. C'est ça que j'ai entendu.
Ouais.
C'est ça que j'ai entendu.
Ouais,
donc par souci de sécurité, à chaque fois on était avec nos agents de protection, parce qu'on a aussi des agents de protection, et on leur fait confiance sur le terrain. On leur fait confiance, donc,
bien sûr,
donc
bien
on
sûr.
Les suit, et en fait on le sent pas, on sort la caméra, on sort pas la caméra. Bon. Donc voilà.
Bah, tout ce que tu nous racontes, bon, c'est évidemment très inquiétant parce que je suis déjà sur l'état de ce pays. Et puis on rappelle que quand on va sur le terrain, que ce soit toi ou les autres, ce n'est pas pour embêter ces personnes ou dire
non.
du mal. Au contraire, c'est pour leur donner la parole, leur
Mais
tendre
oui.
le micro et comprendre ce qu'ils ressentent.
Mais
c'est
oui.
ça qu'on voulait savoir aujourd'hui et on n'a pas pu le faire.
Mais oui, c'est ça qu'on voulait en fait. Nous, on voulait aller parler aux proches, parler à ces jeunes aussi des quartiers qui ont ce sentiment d'injustice, qui ont ce ressentiment envers l'autorité, envers la police, envers l'État. Donc on avait envie en fait de... On fait ça, enfin on était frustrés de ne pas pouvoir le faire. Donc, voilà, c'est vraiment un avis plutôt mitigé, mais on pourra évidemment reparler aussi des péripéties politiques et des déclarations de chacun dans ce podcast, j'imagine.
Ben. On va le faire tout de suite. Toi, c'est un peu avec nous, Anthony. C'est bon,
tu es
en sécurité là, tout
ouais,
va bien.
Ouais, tout va bien.
Bon,
tout
très bien. Anne, rebonjour. Alors, Anne,
bonjour,
toi aussi, Thomas. Tu as essayé de couvrir quelque chose,
oui.
Mais tu n'y es pas arrivé pour d'autres raisons. Donc, explique-nous. Il y avait un déplacement ce jeudi matin,
voilà.
le 29 juin, de la première ministre en Vendée. Et toi qui suis Matignon, hier, tu es donc parti en Vendée et pour rien en fait.
Voilà, parce que le déplacement devait commencer très tôt ce matin. Et donc, pour anticiper, oui, on est parti hier soir avec mon JRI. Donc, on a dormi ouais. à l'hôtel à La Roche-sur-Yon. Et ce matin, à 7h30 au petit déjeuner, parce qu'on avait rendez-vous aux alentours de 8h à la préfecture de La Roche-sur-Yon, on a reçu sur ouais. nos boucles WhatsApp, comme les autres journalistes du déplacement, le déplacement avec la Première ministre est annulé. En fait, dès le réveil, ouais. on a vu que ça s'était très mal passé pendant la nuit, qu'il y avait eu des violences un peu partout, et surtout ce que redoutait... beaucoup la Première Ministre et aussi les membres du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un effet de contagion et que les violences soient plus seulement en Île-de-France et à Nanterre en particulier, mais aussi dans d'autres villes de France. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dès qu'on s'est réveillé, on a commencé à bombarder un peu Matignon de questions en disant qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, etc. Jusqu'à ouais. ce qu'à 7h45, on commence à comprendre que le chef de l'État a convoqué une cellule interministérielle de crise. Et là, on se dit, ah, et une minute après, voilà, à Beauvau, et une minute après, au ministère de l'Intérieur, on nous dit, la Première ministre annule son déplacement. Elle était censée partir donc ce matin pour nous rejoindre.
Elle est partie ou elle a fait demi-tour ou comment ça s'est passé?
Eh bien, elle a fait demi-tour. En fait, le cortège était en direction de l'aéroport.
Ah oui.
Ouais.
Ah
et
oui,
sur le chemin,
ouais.
voilà, sur le chemin, il y a eu l'info de la cellule interministérielle de crise. Et donc, le cortège a fait demi-tour, a ramené la Première ministre à Matignon et ensuite place Beauvau.
D'accord. Et donc ça, c'est, il faut le dire, assez rarissime, ce qu'Emmanuel Macron a dû l'appeler pour qu'elle se joigne à lui. Donc toi, tu es revenu de Vendée aujourd'hui. Et avec une bonne information, alors on a vu Elisabeth Borne qui finalement n'est pas allée en Vendée, mais à Garges-lès-Gonesse pour parler notamment de ces violences-là. On a vu Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Olivier Klein et Pap Ndiaye. Mais à part ces ministres-là, Anne, on est d'accord, les autres n'ont pas le droit de se déplacer. En tout cas, n'ont plus le droit de se déplacer.
Voilà, alors c'est le premier volet en effet, c'est ça. C'est-à-dire que tous les ministres qui n'ont pas des déplacements absolument essentiels jusqu'à nouvel ordre ne se déplace plus sur le terrain. Au moment où on apprend ouais. ça, c'est quand même le signe vraiment qu'il se passe quelque chose quand même de grave, quoi. Qu'il y ait la totalité ouais. de l'exécutif comme ça qui soit consigné, pas consigné, mais en tout cas à qui on dit.
Ah non, oui, mais, ah alors, oui, à l'arrêt, quoi.
Mais pour un tas de raisons, on leur dit les forces de l'ordre sont suffisamment mobilisées, parce que c'est toujours beaucoup de sécurité un déplacement de ministre. Il faut sécuriser
vrai,
le trajet, l'arrivée, la préfecture, etc. Et là, comme c'est un peu partout. En somme, l'exécutif leur a dit non, mais en fait, on va pas démultiplier les forces sur le terrain, ils ont autre chose à faire, les forces de l'ordre, donc pour cette raison-là, c'est pas possible. L'autre raison, c'est évidemment la bande passante, pour le dire un peu dans le jargon, c'est que ça a pris une telle ampleur, ces violences, que, ben, en fait, il n'y a pas de place pour d'autres sujets. Donc l'exécutif.
Et ça serait même décalé de parler d'autre chose que de ça en ce moment.
Voilà, absolument. Il y aurait même un côté un peu décalé et un peu et inutile en plus, parce que ça franchira jamais le mur du son face à la gravité de ce qui se passe. Et donc on apprend que les ministres, effectivement, si c'est pas absolument indispensable, ils se déplacent pas. Et la deuxième chose, c'est que s'ils veulent se déplacer, il faut absolument que les déplacements qu'ils vont faire dans les heures qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent, aient un lien direct avec ce qui est en train de se passer. Donc on voit effectivement à ce moment-là des multiplications, mais en fait des ministres qui sont au cœur du dispo de crise, donc le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il y a une école qui a été endommagé assez gravement à Garges-lès-Gonesse. Bref, que des ministres qui sont directement concernés par la situation.
Ouais. Et ça, c'est aussi un fait rarissime. Et Anne, avant de redonner la parole à Anthony, j'ai observé, moi, dis-moi ce que si tu penses la même chose, un changement de ton de l'exécutif en 24 heures. Hier, on écoutait les questions au gouvernement, c'était mercredi, et on entendait beaucoup d'empathie de la part de la première ministre sur ce jeune qui a été tué, qui expliquait même qu'elle pensait qu'au vu de la vidéo, tout n'avait pas été respecté de la part de la police. Donc, un exécutif qui s'engageait quand même sur une version. Et puis aujourd'hui, ça a été vraiment le mot d'ordre, c'était la fermeté totale. Ça prouve quand même aujourd'hui deux choses. Anne, un, est-ce que il y a une vraie crainte au sommet de l'État sur ce qui va se passer les prochains jours, les prochaines semaines? Et deux, est-ce qu'il y a une sorte de, on va dire, pas de rétropédalage, mais d'être allé un petit peu trop loin hier dans les propos du président, de la première ministre ou encore de Gérald Darmanin?
Alors c'est la grosse difficulté du en même temps, pour répondre à ta dernière question, c'est que pour apaiser, il faut absolument dire c'est très grave ce qui s'est passé. D'ailleurs, le garde des Sceaux l'a redit aujourd'hui, les gamins de 17 ans ne doivent pas mourir. Donc il y a toujours quand même l'aspect compassion vis-à-vis de la famille qui est conservée. Mais effectivement, et là je reviens à ta première question, cette deuxième nuit a été le signe qu'on avait franchi un cap dans quelque chose, encore une fois, parce que ça s'est énormément étendu dans toute la France. Quand je dis dans toute la France, c'est les principales grandes villes de France. Dans leur banlieue, il y a eu des violences parfois graves, il y a eu beaucoup de policiers blessés, il y a eu beaucoup de casses, il y a eu une quarantaine d'établissements scolaires aussi qui ont été attaqués, jusqu'à la prison de Fresnes, qui est quand même une des plus grandes prisons de France. Et donc, avec à la fois, oui, la fermeté qui augmente, mais aussi parce que, en effet, la crainte augmente. Et évidemment, c'est le spectre de 2005 qui est un peu dans la tête de tout le monde, on l'a compris depuis ce matin. Et ce que dit
les émeutes à Clichy-sous-Bois après la mort de deux jeunes à l'époque.
De deux jeunes dans un transformateur électrique qui étaient coursés par la police et qui ont fini par se réfugier qui ont été tués par un arc électrique. Enfin, voilà. Et la crainte, effectivement, c'est que ça dégénère de cette façon-là. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, alors à l'heure où on enregistre ce podcast, on est au lendemain de la deuxième nuit de violence assez grave. Il est 17h30. On attend la troisième nuit là maintenant. L'exécutif attend la troisième nuit, vraiment en se disant.
C'est la nuit déterminante, quoi.
Voilà, exactement. En se disant en plus.
Décisif.
Si jamais ça continue, si jamais ça s'aggrave encore, on donnera l'impression qu'on a perdu le contrôle, qu'il y a des zones de non-droit en France et qu'on n'arrive pas à rétablir l'ordre. Et donc, à ce moment-là, on réfléchira peut-être à établir l'état d'urgence, qui ça aussi est rarissime, mais histoire que le calme revienne. Et donc, c'est une fermeté qui est dépendante aussi, enfin, qui est directement calée sur la crainte que les choses dégénèrent et qu'on en arrive à un truc comme 2005 où vraiment ça dure sur des jours et des jours.
Et dans les propos, Anthony, de la Première ministre, de Gérald Darmanin, encore d'Emmanuel Macron, enfin parfois pas d'Emmanuel Macron, mais il y avait toujours des sous-entendus, ou direct Dupond-Moretti, sur la NUPES et plus précisément sur LFI en clair. Et Éric Dupond-Moretti parlait même de complices moraux. Alors il ne cite pas les insoumis, mais on comprend en filigrane qu'il parle d'eux. En clair, il dit, comme ces élus insoumis n'appellent pas au calme, qu'ils ne condamnent pas, etc., ils se font les complices des voyous qu'on a vus hier soir. Et la stratégie est assumée, non, de la part des insoumis?
Oui, et d'ailleurs, tu fais bien de ne parler que des insoumis, parce qu'au sein de la NUPES, il y a quand même des dissonances vis-à-vis de ces appels au calme-là. C'est vrai que les insoumis, eux, estiment que la violence ou l'expression de la colère après la mort de Ney est le seul moyen, en quelque sorte, de se faire entendre. Et eux, dans leur stratégie, dans leur discours, c'est tout simplement de dire que sans violence, sans colère, on ne peut pas arriver ensuite à avoir un retour au calme, sans justice, sans vérité. Donc, si tu veux, il y a eu cet échange par tweet interposé entre Mélenchon et Darmanin sur Twitter. Je crois que c'est Mélenchon qui a commencé en disant ces chiens de garde qui nous ordonnent d'appeler au calme, nous on appelle à la justice. Réponse de Darmanin le matin qui répond en disant honte à ceux qui n'appellent pas au calme. On a vu aussi les tweets de David Guiraud qui dit on n'appelle pas au calme. Ils assument en fait. Et par ailleurs, hier soir, lors de la première nuit de violence, Thomas Porte ou encore Antoine Léaumont étaient à Nanterre en train de faire le tour des commissariats. Ils étaient là, quoi. Ils ont vu aussi les violences, ils n'y ont pas, évidemment pas participé. Mais il y a cette logique-là. Et il y a une dissonance au sein de la NUPES, parce que Olivier Faure est beaucoup plus clair sur cette question-là. Il soutient l'appel au calme. Il y a eu un communiqué hier. Pareil pour Fabien Roussel. Pareil pour Marine Tondelier, même s'il y a toujours une forme de justification.
Pour Europe Écologie Les Verts,
oui. Ouais, pour Europe Écologie Les Verts, il y a toujours une justification. On comprend, c'est-à-dire qu'on condamne, mais on comprend en même temps la violence qu'il peut y avoir. C'est un peu le 8 mai qu'on a pu retrouver dans certaines manifestations, en fait. Donc il y a cette dissonance-là. Mais moi, j'ai noté quelque chose, c'est que l'année dernière, souvenez-vous, il me semble, pendant la campagne des législatives, il y a eu aussi un refus d'obtempérer qui a malheureusement occasionné la mort d'une passagère. Et à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police tue ». Cette fois, il ne l'a pas dit. Il le dit d'une autre manière, c'est il faut une police refondée, il faut un contrôle de la police. C'est une police incontrôlée. Donc les mots sont quand même un peu plus pesés, même si c'est toujours une forme de 8 mai et on accepte une forme de violence, puisqu'elle veut dire aussi quelque chose de la société, qu'elle exprime une colère et que c'est comme ça aussi qu'il pourrait y avoir une sorte de purgation de la colère après la mort de ce jeune. C'est
une
comme ça que je vois la chose. Voilà, une catharsis.
Est-ce qu'il y a un inquiétant dans tout cela ? Alors là, je donne une position de citoyen plus que de journaliste, mais on parlait en plateau de la comparaison entre aujourd'hui et 2005. Alors évidemment, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, c'est une évidence, mais j'ai l'impression que la violence est décuplée. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, tu le disais, Anthony, il y a une radicalité dans la classe politique en 18 ans qui est folle. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2023, ce n'est pas du tout la même classe politique, ce n'est pas du tout les mêmes propos. En 2005, quasiment tout le monde appelait au calme. Et puis les réseaux sociaux aussi. Et on voit que ça, c'est pour ces personnes-là un moyen de communiquer entre eux, de s'organiser. Et on a l'impression, même Anthony, qu'ils sont beaucoup mieux organisés aujourd'hui qu'il y a 18 ans. Et les services pour la justice de BFM TV disaient « Oui, c'est vrai que ce ne sont pas des gens qui viennent comme ça juste casser deux portes. Ce sont vraiment des gens plus organisés. » quoi.
Oui, sans doute. Et par ailleurs, sur les réseaux sociaux, là, je traînais un petit peu sur TikTok. On m'avait envoyé aussi d'autres appels à rassemblement là ce soir à Châtelet, qui serait aussi un rassemblement de cité. C'est ce qui est dit sur le message. Donc oui, bien sûr, les réseaux sociaux aident à faire converger en quelque sorte les colères.
C'est ça.
J'étais avec tout à l'heure avec Latifa et Binziaten qui était là et qui participait à cette marche, qui était par ailleurs dans le camion.
On l'a entendu à l'antenne, elle était remarquable. Ses propos étaient remarquables.
Et je demandais à Latifa et Binziaten si elle voyait des ressemblances avec 2005. Elle me disait que pour l'instant, parce que j'ai l'impression qu'on en est encore au début de cette colère qui monte, pour l'instant on n'y est pas encore. En revanche, elle sentait bien que dans cette jeunesse, il y avait des jeunes qui étaient complètement désemparés, délaissés, et qui lui disaient, elle me l'a dit comme ça, texto, je m'en fous d'aller en prison. Ils n'ont rien à perdre. Et donc, c'est des jeunes qui sont dans cette espèce de détresse, qui se rassemblent parce qu'ils ont ce point commun. Ils sont dans le désespoir et dans la détresse et dans le manque de perspective. Et ils arrivent d'autant plus à se rassembler avec les réseaux sociaux et aussi galvanisés par des responsables politiques qui, au fond, ne condamnent pas forcément les violences, puisqu'il y a toujours cette ambiguïté et ce « oui, mais » dont on parlait.
Anne, je relance juste en te posant cette question-là. Anthony parlait de l'après, et personne, évidemment, ne peut prédire ce qui va se passer ce soir, demain soir, après-demain soir, ce week-end, etc. Mais toutefois, il y a un débat sur l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut rétablir ou non l'état d'urgence ? Est-ce que l'exécutif réfléchit sérieusement à le mettre en place ou c'est trop tôt pour l'instant ?
Alors c'est un peu trop tôt, mais vraiment la nuit qui va venir va être déterminante parce que quelqu'un de l'exécutif me disait aujourd'hui, il y a un espèce d'effet de seuil. Au bout de 3 nuits, on considère que si le calme n'est pas revenu, et si même la violence augmente, on considère qu'on donne l'image d'un pouvoir qui ne sait pas en fait contrôler ses quartiers, qui ne sait pas maintenir le calme, et donc plus le temps avance et plus effectivement la certitude, alors parce qu'en plus il y a un effet, parce qu'il y a eu plein de sujets techniques aujourd'hui, mais on m'expliquait qu'il y a beaucoup de policiers qui nous ont relayé le fait qu'il manquait de munitions, pas offensives, hein, mais même pour se défendre. Et l'état d'urgence leur permet d'avoir du matériel supplémentaire, d'avoir de quoi se défendre de façon plus importante. Et deuxième point, ce que disait aussi un autre conseiller ce matin, c'est que les policiers ont reçu pour ordre de ne surtout pas déraper. étant donné le niveau inflammable de la colère, il faudrait pas qu'il y ait un suraccident et donc à un moment quelqu'un qui soit blessé, qui ait un geste d'un policier, même sous la panique ou dans le fait d'une quelque chose de confus, mais en tout cas qui ait un suraccident et qui ait en plus quelque chose à reprocher aux forces de l'ordre. Et donc du coup les policiers, on leur a dit en substance, intervenez le moins possible, vous maintenez le calme, mais on veut pas d'offensif quoi. Et l'état d'urgence permettrait aussi de transférer quelque part la responsabilité du maintien de l'ordre, non pas seulement aux policiers, mais aussi aux militaires, avec quelque chose qui serait plus centré par la police, sur la police, parce que c'est ce que disait aussi ce même conseiller. Il disait le problème, c'est que la police aujourd'hui est au centre de toutes les critiques dans ces quartiers où ça se passe très mal, et c'est elle qui vient maintenir l'ordre, quoi. Et donc il y a un espèce
de problème. Anne, c'est que l'état d'urgence, c'est que ça veut dire que c'est un couvre-feu, mais imaginez que le couvre-feu n'est pas respecté parce que, comme l'expliquait Anthony, ces voyous ont moins peur aujourd'hui de finir en prison, etc. Ça serait un désaveu et un défi d'autorité pour l'exécutif. Donc ça c'est, évidemment, j'imagine que tout cela est pris en compte au sommet
de l'État.
Tout
ça est pesé, c'est un risque. Et dernier point, quand je rajoute juste ça, c'est que l'état d'urgence, c'est toujours une forme de traumatisme un peu pour les Français. C'est largement pesé par l'exécutif aujourd'hui. L'état d'urgence, il y a quelque chose quand même de très, rien que dans l'appellation, c'est très anxiogène. On a déjà eu un Covid et
le
confinement.
Le Covid, les attentats.
Voilà. Et d'ailleurs, ce que redisait un peu l'exécutif ce matin, c'est en plus, on sait que ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est aussi un effet à retardement du Covid. Ça s'est passé de façon très calme pendant les confinements. Le trafic de drogue s'est complètement arrêté, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Il y a eu beaucoup de personnes malades, ça s'est mal passé dans les quartiers, mais le calme était maintenu. Et il y en avait certains qui pensent aujourd'hui que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'allumette qui a réveillé un bidon d'essence qui était endormi depuis 3 ans, qui n'attendait que de s'enflammer. Et donc, l'état d'urgence dans ce contexte-là, c'est remettre une...
Pourrait être l'étincelle.
Exactement, une autre étincelle.
Merci. Merci à vous deux, et surtout Anthony, rentre à Paris et sois prudent.
Et préviens-nous quand t'es arrivé.
Oui,
t'envoies un petit WhatsApp.
Non, mais à force, on est habitué, et puis c'est important quand même de continuer à faire ce métier de cette manière. Malheureusement, les conditions ne le permettent pas tout le temps. Mais...
Tu as bien raison. Merci à vous deux.
Merci Thomas.
Salut.
En général, quand je termine un podcast comme celui-ci, j'ai une petite idée de ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai une petite idée du planning, de l'agenda. Là, je peux vous dire qu'on navigue dans le flou le plus total, minute par minute, heure par heure. Donc, rendez-vous, c'est sûr, la semaine prochaine. Est-ce qu'on vous parlera encore de ces scènes de violence ? Peut-être. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.